Eh bien, bonjour à chacun. C'est bon d'être ici. C'est un peu stressant, par contre. C'est toujours un petit peu stressant. Alors, je suis un jeune père de l'Assemblée. Et ça serait mieux que je sois un jeune père, même quelqu'un qui n'a pas d'enfant encore. Parce que je pourrais parler librement de ce que Dieu nous appelle à faire sans fardeau. Malheureusement, j'ai eu des enfants, j'ai encore des enfants. Vous trouvez ça drôle, vous autres, là? Hein? Il y a eu des joies, des défis. Alors, quand je m'adresse à vous, je suis conscient qu'il y a différentes situations qui peuvent peser sur votre cœur. Pour le mien, j'ai une joie d'avoir été père. Et j'ai encore des défis, encore des choses à réparer, à corriger. Mais c'est quand même une joie d'être père. Alors, peut-être avant de commencer, on va se courber. Et Seigneur Dieu, je te demande que tu sois avec moi, que tu sois avec chacune des personnes ici présentes, qu'on puisse venir à toi en toute confiance que tu es un Dieu qui est rempli de grâce. Et que chacun de nous, Seigneur, on a besoin de venir à toi et de t'implorer pour que tu nous accompagnes dans les choses que tu mets devant nous. Sois avec, Seigneur, chacune des personnes ici présentes, ceux qui nous entendent. J'ai entendu tantôt que l'Église de Maniwaki est aussi à l'écoute. Alors, Seigneur, que ce soit un temps où on peut s'encourager par ta parole. S'encourager à persévérer, à regarder en avant. Alors, bénis ce temps qu'on va prendre pour, Seigneur, regarder ta parole ensemble. Amen. Alors, pendant que je préparais ça, je me suis, comme de raison, comme tous ceux qui amènent un enseignement, ils vont chercher certaines réflexions, certaines recherches. Et j'ai pensé que ce serait bon de commencer avec un sondage avec vous. Maintenant, c'est pas un sondage où vous levez votre main, où on compile les résultats. C'est vraiment un sondage pour vous amener à réfléchir sur le sujet, sur le thème qu'on va traiter ce matin. Donc, il y a deux sondages et dans chacun des sondages, il va y avoir une question pour vous réchauffer. C'est-à-dire, c'est une question que tout le monde va être capable facilement de répondre. Et vous pouvez le garder pour vous. Alors, la première série de questions dans le sondage, est-ce que tu as un père? Eh bien, chacun de nous, on a un père. Il y en a qui sont biologiques. Il y en a qui sont des pères spirituels. Il y en a qui ont été des pères adoptifs. Mais même si notre père n'est plus présent dans ce monde, chacun de nous, on a un père, n'est-ce pas? Est-ce que tu as eu un père présent dans ta vie? Est-ce que tu gardes un souvenir principalement positif de la présence de votre père? Je sais déjà là, qu'Alexandre a dit qu'il y avait des moments stressants quand je lui parlais de ses notes d'école et que je lui demandais où il avait perdu les 5 points, parce qu'il avait juste 95, là, tu sais. Est-ce que tu cherches à maintenir une relation avec ton père? S'il est encore en vie, comme de raison, on ne croit pas à prier les morts, n'est-ce pas? On a un seul médiateur. Et maintenant, la prochaine série de questions, c'est concernant les pères. Alors, es-tu un père? Alors ça, c'est facile, c'est pour vous réchauffer. Mais est-ce que tu avais des aspirations pour devenir père, jeune homme, jeune époux. Est-ce que dans ton cœur, tu avais un désir, une aspiration, un jour, je vais être père? Est-ce que ça te rend un peu ou beaucoup stressé, anxieux, au point parfois peut-être de ne pas t'engager si tu es un jeune homme? et qui n'est pas marié encore, ou bien si tu es père, tu vois des choses difficiles et tu penses bien découragé. Tu penses, l'idée te vient que, j'aimerais mieux abandonner. Est-ce que c'est là dans ta pensée? Est-ce que ton rôle de père est clair pour toi? Tu sais pourquoi tu es père. Tu as une bonne idée de ce que tu dois, ce que Dieu demande que tu fasses. Est-ce que, comme père, tu es bien préparé ou bien équipé pour remplir la part que Dieu a fait, la part qui te revient? Et est-ce que tu te sens appuyé dans ton rôle de père? Alors, c'est des questions qui sont là, qui sont présentes. Et bien aujourd'hui, c'est la fête des pères. J'ai entendu une expression que j'ai même moi-même utilisée parfois. Et c'était « j'ai pas le temps ». ».« J'ai pas le temps pour faire ça ». Et la vérité est que j'ai le temps pour faire les choses qui sont importantes pour moi. J'ai le temps pour faire les choses que je considère peut-être plaisantes. Pour agacer André, là, c'est peut-être le golf, le mardi. Là. J'ai tout le temps pour ça. Oui? Et alors, qu'est-ce qui m'amène, moi, Gilles, ou vous, à prioriser sur ce qui est important? Vous savez, il y a des enfants, il y a des ados ici. Eh bien, vous êtes enfant jusqu'à 11 ans. Ensuite, vous devenez un ado. Vous êtes un ado jusqu'à 19 ans. C'est, en anglais, ils disent 19. Puis, ça prend fin. Si vous êtes un menuisier, eh bien, vous êtes un apprenti. Un compagnon peut-être, un superviseur, un surintendant, peut-être même un entrepreneur. Mais un jour, ça va prendre fin. Moi, j'ai travaillé pour la fonction publique, pour la Société canadienne d'hypothèque et de logement, pour R&R, pour Post Canada, pour CGI. J'ai été pasteur rémunéré pour un temps, coordonnateur au niveau de l'association, professeur à Saint-Bec, mais toutes ces choses-là prennent fin. Il y a un temps où ça prend fin. Mais notre rôle de père ne prend jamais fin. Et certainement pas avant la mort, même si les circonstances de la vie ont amené qu'un enfant, par la maladie, par d'autres situations, ne soit plus avec toi, eh bien, ton statut de père demeure. C'est pas vrai pour la situation d'époux. La Bible nous dit que dans l'au-delà, on n'est pas époux-épouse. Mais je pense qu'on demeure père, même dans l'au-delà, pas avec les mêmes responsabilités. Je prendrai beaucoup de temps pour me... pas beaucoup de temps pour me préparer pour quelque chose qui va durer une heure puis qui n'a pas tellement d'importance. Mais pour quelque chose qui va durer toute ma vie, il me semble que là, je veux m'investir. Je veux bien le faire. Je veux comprendre qu'est-ce qu'on demande de moi. Et donc, aujourd'hui, les jeunes hommes, les jeunes pères, les pères plus âgés, eh bien, vous voulez, c'est une situation de vie qui va durer pour toujours et vous voulez être capable de bien le faire. Après une journée de travail, je me souviens que mon père aimait s'asseoir et regarder le travail qu'il avait accompli. Puis il disait, on a accompli pas mal de choses. Eh bien, à la création, Dieu fait un peu la même chose, n'est-ce pas? Après chaque jour, il dit, c'est bien. Eh bien, à mesure que j'avance, je veux être capable de regarder en arrière et dire, savez-vous, mon rôle de père s'améliore. Et à la fin de mes jours, je vais être capable de dire, mais Dieu m'a fait grâce. Et il m'a aidé avec mon rôle de père. Et aujourd'hui, je laisse cette planète, quand Dieu le voudra, comme on a chanté, avec un sentiment de satisfaction, de joie, dans le rôle de père que moi j'ai eu. Et je suis certain que c'est la même chose avec vous. On est en 2024. Il y a un monologue que Yvon Deschamps a fait. Et le monologue d'Yvon Deschamps, c'était le syndicat, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, après avoir vu la pièce de théâtre, les fabriqueuses d'allumettes hier après-midi, il y avait une grande nécessité pour les syndicats. Celui qui jouait le patronat, là, il était vraiment une preuve que les syndicats étaient nécessaires. Mais il nous a laissé aussi cette expression-là, québécoise, que j'aime, et je l'ai appliquée. Être père, qu'est-ce que ça donne? Tu sais? Et la société, elle ne nous donne pas un sentiment que c'est bien important, je vous dirais. Depuis les derniers 40, 50 ans, on a essayé toutes sortes de choses au niveau de la famille, au niveau de relations, au niveau de couple, au niveau de parents. Mais si on regarde les résultats aujourd'hui au niveau de la famille, au niveau du père, eh bien, c'est pas tellement élogieux. Et cette même société-là qui nous a encouragés à essayer toutes sortes de choses, eh bien, ils accumulent des statistiques qui démontrent qu'il y a des problèmes. On a des choses à corriger. Et je vous dirais que pour nous, on est à la fête des pères et il y a plusieurs hommes et peut-être plusieurs personnes ici qui se demandent, non, mais qu'est-ce que ça donne? Et qui se demandent, est-ce que c'est utile que je remplisse le rôle de père? Mais malgré le découragement, la déception qu'ils peuvent avoir, dans le fin fond de chacun de nous, les hommes, les pères, on sait que le rôle de père est important. Et malgré ce que la société puisse en dire, toutes les statistiques qui démontrent que ça va pas tellement bien, je dois dire que l'instinct que Dieu nous a donné concernant l'importance du rôle du père est juste. Le père a une importance dans la vie de nos enfants. Alors, c'est plusieurs, peut-être, vont dire en ce moment, c'est bien beau, c'est des belles paroles, mais moi, j'ai passé la nuit avec mon enfant de 2 ans qui n'a pas dormi. Ou bien, vous vivez un temps difficile avec un ado. Même il y en a qui vont dire, plus que difficile, là, ça va vraiment mal. Ou bien que vous êtes un peu déçu quand vous regardez le rôle que vous avez joué, l'influence que vous avez eue, puis vous êtes un petit peu déçu de tout cela. Eh bien, comme je vous ai dit, je suis un père et prêcher sur le rôle du père à mon âge, ça peut être un peu stressant. Parce que tout ce que je vais dire, j'ai probablement 3 enfants dans la salle qui disent « pas fort ». Ils sont en train de m'évaluer là, en ce moment là, sur ce que je vais dire. Les priorités, est-ce que tu as mis tes priorités à bonne place pendant les années, là, je dirais, là, tu sais, 90 à 2000, là. Et je regarde tout cela et je dis, c'est pas tout le temps des bonnes notes que j'aurais. Mais je pense à l'apôtre Paul qui, dans Philippiens, en réalité, il regarde son ministère, puis il dit au chapitre 3, verset 13, « Frères et sœurs, je n'estime pas même être moi-même déjà emparé de tout ce que je dois faire. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant. » Alors, ça m'est arrivé dans les dernières vingtaines d'années. Il a fallu que je fasse ça. Et un peu comme l'apôtre Paul, j'ai dit, non, moi, j'arrête pas là. moi, je m'en vais en avant. La semaine passée, Norman nous a parlé de l'importance de la parole de Dieu, de la richesse de la parole de Dieu. Il nous a prêché sur le psaume 19 et le verset 9 dit « Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. » Eh bien, et au verset 12, ça dit « Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. » C'est des passages encourageants. Ça nous rappelle l'importance des préceptes, des décrets de Dieu. Et j'aimerais qu'on examine ce que la Bible dit. Et je crois que, contrairement à ce que notre société peut bien penser d'être père, d'avoir des enfants, la Bible dit complètement autre chose. Loin d'être un fardeau écrasant, peut-être vu comme une punition pour certains, la Bible dit que les enfants sont un cadeau de Dieu. Et on le voit à maintes reprises dans Genèse, dans Ruth, dans 1 Samuel. Ils sont un héritage, une récompense de l'Éternel. Et ceux qui ont lu un peu la Bible savent combien de femmes comme Sarah, Rebecca, étaient stériles, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils désiraient avoir un enfant. Et quand ils sont devenus enceintes, ont donné naissance à un enfant, ils étaient dans la joie. Pour eux, l'enfant était une récompense. C'était une bénédiction de la part de l'Éternel. Et à maintes reprises, on nous dit que le fils, la fille sont une bénédiction de la part de l'Éternel. C'est une source de grande joie. C'est une grâce de Dieu. Et le rôle du père, eh bien, il est important. Et je crois qu'il est distinct dans la vie d'un enfant aussi. Je crois que la Bible nous enseigne cela. Maintenant, je sais que c'est difficile. Je sais que il y a toutes sortes de situations qui peuvent exister. Par exemple, un enfant qui regarde puis dit « Bien, mon père n'était pas là quand j'ai fait le sondage tantôt. Puis s'il était là, il était mieux de ne pas être là. » Bien, dans tout cela, je peux vous dire que Dieu est toujours au courant de ce qui se passe dans nos vies, même dans nos vies, même dans les plus grandes épreuves. Et il y a des passages qui nous disent « Mets ta confiance en moi ». Le psaume 84, là, tu sais, vous les voyez probablement à l'écran. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Mais des chemins tout tracés, ça parle que Dieu a déjà préparé tout le déroulement de notre vie. C'est difficile à comprendre, mais c'est réconfortant. Dieu est souverain. Dieu connaît tout. Dieu a créé le temps. Donc, quand il regarde la vie de Gilles, il regarde votre vie, il regarde avant même que vous étiez né, après même que vous étiez né, et il avait des chemins déjà tracés. Dans Éphésiens 10, il mentionne que qu'il a préparé d'avance des œuvres pour que nous, l'enfant de Dieu, on puisse les pratiquer. Et le proverbe 19-21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. J'ai toutes sortes de pensées, toutes sortes de désirs. Mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Et dans Philippiens 1-6, un verset que j'aime me rappeler pour démontrer que je ne suis pas arrivé encore. Non, je suis né pendant 33 ans de ma vie, j'ai marché indépendamment, rebelle même à Dieu, puis il est venu me chercher à 33 ans. Puis là, j'avais un paquet de problèmes, et il y en a encore un paquet. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa patience, il travaille avec moi, il travaille avec chacun de vous. Chaque père, il est en train de faire une œuvre parfaite. Alors, pour les trois enfants qui sont ici, découragez-vous pas. Un jour, juste avant mon décès, je vais être un meilleur père que je suis maintenant. Mais mon désir, c'est pas de rendre la tâche difficile pour Dieu, c'est de collaborer avec lui. Alors, le père, une personne importante dans la vie des enfants, les recherches montrent que les pères qui jouent un rôle actif dans la vie de leur enfant contribuent positivement à leur développement. Comme j'ai dit, les statistiques concernant les enfants sans père sont ahurissantes. Il y a un film sur Netflix qui s'appelle « Show me the Father », qui a été fait par le même groupe qui ont fait différents films chrétiens. Je vous encourage d'aller le voir. Et la personne donne des statistiques qui sont décourageantes sur des familles qui n'ont pas un père présent. Comme j'ai dit, il y a plusieurs versets qui parlent, dans les Proverbes surtout, du père, du fils, de la mère. J'ai vu un verset dans Proverbes 17, verset 6, et la deuxième partie dit « Les pères sont la gloire de leurs enfants. » Les pères sont la gloire de leurs enfants. Bien, je sais là, que jusqu'à l'adolescence, l'enfant regarde son père, puis c'est un Superman. Il peut tout, il est plus fort que tous les autres pères. Mais même quand l'enfant grandit, même quand il arrive adulte, il y a dans le cœur de l'enfant le désir, la soif d'être fier de son père. Alors, qu'on ne travaille pas contre cela. Dans Ecclésiaste, ça dit qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais il a mis dans le cœur de l'enfant ce désir glorifier son père. Maintenant, qu'est-ce qu'un père? J'aimerais qu'on commence en se rappelant qu'est-ce qu'un chrétien? Et vous avez sur la diapositive, c'est avant d'être un père, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien. Et qu'est-ce qu'on demande d'un chrétien? Eh bien, c'est quelqu'un qui accepte le rôle et la responsabilité de transmettre le caractère, la personne et les desseins de Dieu à travers lui aux personnes avec qui il entre en contact. Il me demande pas de transmettre quoi que ce soit à la personne que je rencontrerai jamais, mais ceux au travail, mes voisins, ceux dans la rue qui me retardent sur le chemin, eh bien, il veut que je reconnaisse, moi, que je suis un enfant de Dieu. Et je dois transmettre pas le caractère mauvais de Gilles, colérique, mais le caractère, la personne et les desseins que Dieu a pour cette personne-là. Et heureusement, Dieu a mis des gens autour de moi pour graduellement m'amener à être de mieux en mieux. La Bible dit dans Éphésiens, amener à la stature parfaite de Christ. Je sais là, que je ne suis pas là encore, mais c'est le cheminement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et qui aime son prochain comme soi-même. Ça, c'est la définition du chrétien. Mais quand je deviens père, je dois au minimum agir comme un enfant de Dieu, comme un chrétien. Et donc, un père, c'est quelqu'un qui accepte le rôle et la responsabilité de transmettre le caractère, la personne, les desseins de Dieu à travers lui et sa progéniture. C'est notre rôle. Et nos enfants sont là constamment. Et à un moment donné, on m'a demandé d'aller parler à un regroupement de l'homme de parole. Et le sujet, c'était « Quel héritage veux-tu laisser à tes enfants? » Puis, écoutez, là, cette deuxième partie qui dit « Qui est ton père? » C'est « Qui je suis dans ma maison quand la porte est fermée? » Quelle sorte d'homme est-ce que je suis? Est-ce que mon comportement reflète à ceux qui sont là presque 24 heures par jour, 7 jours semaine, est-ce qu'il me voit transmettre le caractère, la personne de Dieu? Certainement pas parfaitement. Certainement pas parfaitement, mais c'est quand même l'objectif que Dieu nous donne. Et c'est un père qui aime le Seigneur, qui aime son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et son prochain comme soi-même. Est-ce que mon épouse et mes enfants font partie de mon prochain, vous pensez? Oui. Et je pense que oui. Donc, si je comprends ce que je suis comme enfant de Dieu sur le côté gauche de la diapositive, ça doit affecter comment je considère ce que c'est être un père chrétien dans ma famille. Eh bien, le rôle important, je vous dirais, d'un père, et j'ai combattu avec cette idée-là parce que c'est un concept que notre société, même moi, on n'aime pas beaucoup. Et c'est cette notion que le père est le chef du foyer. Eh bien, je comprends pourquoi que c'est un défi pour notre société d'accepter qu'un des conjoints, que le père, l'homme, ait un rôle comme celui d'un chef. Parce que les chefs, là, et même aujourd'hui, en 2024, on les voit comme des leaders autoritaires, dominateurs, absolus. Ils ne cherchent qu'à être servis. Et je vous dirais que c'est pas nouveau. Même dans le temps de l'Ancien Testament, pendant le ministère de Jésus, les chefs, les leaders du temps, même les leaders religieux, étaient dominateurs, contrôleurs. Combien de fois dans les livres de l'Ancien Testament on reproche aux dirigeants religieux d'abuser du peuple? Combien de fois? Jésus, pendant son ministère, Jean et Jacques, les fils de Zébédée, qui aimeraient ça être le premier, alors ils approchent Jésus, puis Jésus leur répond ceci. Puis il appelle tous ses disciples parce que ça créait une division. Il dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Et le verset 23, il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. Jésus savait comment les chefs de son temps étaient. Mais il dit, c'est pas comme ça que vous devez agir. Jacques, quand il voit qu'il y a des gens dans l'Église, dans son épître, il va mentionner au chapitre 2, « Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? » Eh bien oui, c'est bien ça. Et encore en 2024, on peut voir ce genre de leader. Et malheureusement, souvent parmi des couples qu'on côtoie, l'attitude du mari, du père. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous appelle à être. Il nous demande d'être un leader serviteur. Et un leader serviteur dirige complètement différemment. Il dirige comme le Seigneur nous a enseigné, avec amour, à l'image de l'amour de Christ pour son Église. Avec humilité, il regardant les autres au-dessus de lui-même. Dans Philippiens, chapitre 2, on a toute un passage qui parle de l'humilité. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, Paul décrit comment il a agi quand il est allé évangéliser les Thessaloniciens. Il dit, « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » Donc, je sais que le concept de chef est problématique, mais c'est parce que notre compréhension de de ce chef-là est erronée. Être le chef de son foyer concerne des responsabilités que Dieu nous a données. Ça ne concerne pas le pouvoir, le prestige, le rang. Ça concerne le sacrifice, pas l'égoïsme. Christ a donné sa vie pour son Église. Donc, ça doit être un comportement sacrificiel, prêt à nier certaines choses qu'on aimerait pour le bien de son foyer. Et ça concerne le devoir, pas la domination. Alors, il doit diriger de cette façon-là. Eh bien, j'ai lutté avec est-ce que vraiment Dieu appelle l'homme, le père, à être le chef de son foyer? Et je crois que clairement, la réponse est oui. L'homme, le père, dans son foyer, a le rôle de chef serviteur, de leader serviteur. Et j'ai mentionné Éphésiens, j'ai mentionné, il y a un Timothée, quand on parle d'élire des anciens, des dirigeants, des pasteurs dans l'Église, on dit qu'ils doivent diriger bien son foyer. Mais il y a aussi, et quand ça vient de critiquer de la façon qu'un enfant a été élevé, eh bien, vous savez, nous, quand on va quelque part et qu'on n'est pas content du service, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux parler à ton patron? N'est-ce pas? Puis là, on essaye d'aller d'un plateau à l'autre. On veut. Et quand que Dieu reprend David pour son fils Adonija, il reproche que David n'a pas suffisamment repris Adonija. Il ne dit pas la mère d'Adonija. Il est allé à celui qui a la responsabilité, là. Et c'est pas le seul qui pouvait le faire, mais David l'a pas fait. Et la même chose pour Élie. Il n'a pas été voir la mère des enfants d'Élie. Il est allé voir Élie. Et pour moi, ça démontre clairement que Dieu veut que l'homme reconnaisse qu'il a un rôle de chef. Et même s'il y a des notions qui sont mauvaises dans notre société, dans le passé, Dieu veut quand même qu'on soit, en tant que père, le chef du foyer, le leader serviteur. Il te demande pas de tout faire. Il te demande d'être le chef. Un chef fait pas tout. Il y a des gens qui vont l'aider. Il va les encourager, il va les équiper. Et je pense qu'il va demander au père cette question. Est-ce que tu élèves tes enfants comme je t'ai demandé de le faire? Ce ne sera pas la seule question qu'il va nous poser. Il y a plusieurs autres questions en tant qu'enfant de Dieu qu'il va nous poser. Certainement, il va dire, as-tu aimé ton épouse comme Christ a aimé l'Église? Il va nous demander là, de rendre compte, un peu comme un serviteur. Mais je crois que c'est important de reconnaître le rôle de chef, un leader, serviteur avant tout. Il y a toutes sortes de chercheurs qui ont fait des études, qui ont fait des sondages, qui sont arrivés avec des recettes. Des fois, c'était des recettes pour comment est-ce que tu peux faire un délinquant en tant que parent. Puis là, ils te donnent 4 façons là, que tu peux faire pour que tes enfants deviennent des délinquants. Et le même auteur va dire, voici qu'est-ce que tu dois faire pour que ton enfant réussisse bien, que tu l'élèves bien. Et c'est 4-5 facteurs. Il y en a un qui il y a 13 conseils à donner. Eh bien, je pense que la Bible donne quand même un enseignement beaucoup plus simple et clair. Et je l'ai mis ici. La façon d'agir dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 4. Et ça concerne essentiellement 3 éléments. Je n'irai pas dans les éléments. parce que je veux vous lire une histoire à la fin, mais certainement, n'hésitez pas en les corrigeant, en les instruisant. Et la plupart des versets ne disent pas que c'est le rôle du père, mais le rôle des parents de faire cela. Mais, en tant que chef, le père doit s'assurer qu'il doit le faire. J'aimerais juste le côté « n'héritez pas ». C'est important d'examiner qu'est-ce que je fais qui peut hériter mon enfant. Je pense que Jésus l'a mentionné dans Matthieu 7, dans le sermon sur la montagne. Il a dit une règle d'or. La règle d'or, fais aux autres ce que tu veux qu'ils te fassent. Et je pense que ça viendrait pas mal diriger comment on le fait. Mais certainement, comme Spurgeon a dit, former un enfant dans la vie qu'il doit vivre, eh bien, comme parent. Mais veillez à suivre vous-même cette voie. Et s'il y a quelque chose qui va hériter l'enfant, c'est de voir que les parents leur demandent de faire quelque chose que le père ne font pas. Maintenant, ce n'est pas facile. Et je vais vous lire une petite histoire. J'ai entendu parler un jour d'un jeune homme qui avait décidé d'être un leader serviteur au service de sa femme. Un jour, il lui a donné un jour de congé à son épouse. Il a pris leur fils de 3 ans et dans le cadre de ses tâches, il est allé faire les courses pour la famille à l'épicerie du coin. Ils ont parcouru les allées et le petit était dans le chariot. Mais l'heure de la sieste approchait et le petit s'agitait, devenait grincheux et commençait à piquer une crise. Il criait, hurlait, tendait la main pour attraper toutes les choses sur les étages. Sachant qu'il y avait des pots, des boîtes et des boîtes de conserve. Est-ce que vous avez déjà été là? Alors, il y avait une dame derrière le père d'un certain âge qui marchait derrière le père. Elle était désireuse d'observer comment il allait s'y prendre avec le petit schnappant fatigué. Elle était étonnée de voir que le père restait assez calme. De temps en temps, elle l'entendait dire des choses comme « Pierrot, calme-toi. Pierrot, ne fais pas ça. Ne perds pas le contrôle. Calme-toi, Pierrot. Tout va bien se passer. Ne fais pas ça, Pierrot. Si tu le fais, quelqu'un va être blessé. Encore un peu de temps, Pierrot. Tiens bon, mon pote. » Et le monologue se poursuivit. Tandis que les crises et la colère de l'enfant s'aggravaient. Finalement, le père et le fils arrivent à la caisse, juste devant la dame qui était derrière eux, paravent. Debout dans la file d'attente, elle tapa sur l'épaule du père et lui dit en souriant, « Tu sais, je veux juste te dire que je t'ai observé. Et je vois bien que la situation était difficile. » Je veux juste vous dire à quel point j'apprécie la façon dont vous avez géré le petit Pierrot. Les yeux du père se sont agrandis. Il a secoué la tête et finit par dire, « Madame, je suis Pierrot. » C'est pas facile. C'est pas facile d'être un serviteur, n'est-ce pas? Mais Dieu nous demande de l'être et va nous accompagner. En passant, vous pensiez peut-être que c'était Daniel Langlois, le père, là, hein? Parce que nous avons un Pierrot ici, là, mais non, c'est pas une histoire que Daniel. Maintenant, tous les efforts, toute l'obéissance que vous allez prendre en tant que chef, en tant que père consciencieux qui désire obéir au modèle que Dieu nous a laissé, le résultat ne vous appartient pas. L'enfant grandit, prend ses décisions et il est responsable. Notre rôle, c'est d'accomplir, d'être fidèle à ce que Dieu me demande comme père. Yogi Berra est un homme qui a joué au baseball et il était connu pour toutes sortes de citations. Puis il y en a une qu'il avait faite quand il perdait. Il était rendu, je pense, à une partie de perdre la série. Et on lui avait dit, « Coudonc, Yogi, penses-tu que vous allez perdre la série? » Il dit quelque chose de très, très profond. Il dit, « C'est pas fini tant que ce n'est pas fini. » Alors, quand on élève nos enfants, il faut que je me rappelle que moi, je suis au Seigneur, j'avais 33 ans. Il faut que je me rappelle que j'ai été rebelle. Faut que je me rappelle que Dieu travaille dans ma vie et il travaille dans la vie de mes enfants. Demandez aux musiciens, à Luigi et à Miel, de venir. Et j'ai un dernier partage que j'ai pensé mentionner ce matin quand j'ai lu un article dans Desiring God sur un père, l'héritage d'un père dans sa faiblesse. Et ça m'a fait penser à mon frère Guy, qui plusieurs peut-être le connaissaient. Mon frère a été atteint de la sclérose en plaques à 25 ans. Il a été en chaise roulante probablement à l'entour de 40-45 ans. Et les derniers 3-4 ans de sa vie, il était couché à Saint-Vincent-de-Paul et ne pouvait pas bouger aucun membre sauf sa tête. Et il avait même pas suffisamment de force pour communiquer. Il fallait qu'on lui suggère des mots parfois. Mais malgré que mon frère était faible, malade, il a laissé quand même tout un héritage à ses enfants. Et moi, je vous dis, indépendamment de ce qui s'est passé avant, regardez ce qui est en avant et cherchez à laisser un héritage pour vos enfants.